Hébreux, chapitre 8, verset 9. La deuxième partie du verset dit ceci. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et ce texte nous dit qu'il nous est important, nous, pour qui une alliance éternelle a été faite, de faire bien attention à persévérer dans l'alliance. Persévérer dans l'alliance. Dans l'alliance, il est question du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix du calvaire, cette alliance éternelle. On va revenir au sujet de l'alliance. Avant, j'aimerais qu'on lise aussi dans Jacques. Et dans cette idée de persévérance, Jacques va encore plus loin. Au verset 2 du premier chapitre, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Jacques ne nous dit pas d'aimer nos épreuves pour ce qu'elles sont. Jacques nous dit d'aimer nos épreuves pour ce qu'elles vont produire par la suite. À savoir que l'épreuve que nous pouvons traverser va produire quelque chose de bon pour nous. De la même manière que ce que nous avons lu, le mal peut être changé en bien. Pour terminer l'introduction, dans Hébreux chapitre 13, donc juste avant, nous lisons le verset 20 et 21. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il est donc la question aussi de l'alliance éternelle, mais Dieu veut que nous puissions être capables d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand nous persévérons dans cette alliance, Dieu travaille en nous. Et par rapport à ces versets que nous venons de lire, le message va s'articuler sur trois points. Le premier point que nous allons voir, c'est que Dieu a fait alliance avec nous parce qu'il nous aime et qu'il aime aussi notre entourage. Ensuite, Dieu veut travailler pour notre perfectionnement. Et le dernier point, Dieu veut travailler avec nous en nous rendant participants de son œuvre. Et pour ces trois points-là, l'histoire de Joseph m'a semblé appropriée. Alors nous allons regarder un petit peu l'histoire de Joseph. Avant de commencer, je vais juste introduire, pour comprendre un peu le verset clé que nous allons voir après, par une première lecture dans le chapitre 45 du livre de la Genèse. Joseph a un père qui s'appelle Jacob, mais que Dieu a nommé ensuite Israël. Et dans la Bible, quand vous lisez le livre de la Genèse, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais parfois on lit Jacob et parfois on lit Israël. Je ne sais pas si vous êtes posé la question de la raison pour laquelle on voit cette différence. Il y a une raison toute simple, c'est que Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Donc on peut en déduire qu'Israël, quand il est écrit Israël, il est parlé de l'homme de Dieu, de l'homme spirituel. Et quand c'est Jacob, c'est l'homme charnel. Et on en a un peu une image, justement, dans cette lecture, au chapitre 45, versets 25 à 28. Le contexte, c'est Joseph qui est gouverneur du pays d'Égypte et qui veut que Jacob le rejoigne. Alors, il fait amener les chars de Pharaon, etc. Et au moment où Jacob entend la nouvelle, vous allez voir, ils remontèrent de l'Égypte, donc au verset 25, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid. Le cœur de Jacob était resté incrédule. Je continue, « Parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et qui parle ? Israël dit : C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Donc quand Israël parle, il y a une dimension de foi qui est là. Il y a quelque chose de supplémentaire. L'esprit de Jacob se ranima. Et là, Israël parle. C'est plus Jacob. Vous avez bien compris la différence ? Alors, on va revenir au chapitre 37 maintenant. Au chapitre 37, regardez le verset 3. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Personne ne me reprend. Genèse 37, verset 3. C'est Israël qui écrit. Vous êtes d'accord avec moi ? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc c'est bien Israël qui a fait la tunique. On qu'on soit bien d'accord. Or, on pourrait se dire, mais tiens, il y a des préférences. Est-ce que vous vous rappelez cette parole que l'apôtre Paul écrit aux Romains ? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et la phrase est d'autant plus belle que Dieu dit qu'il a aimé Jacob, il a aimé l'homme charnel, il a aimé le pécheur. Et si ce soir tu es là pour la première fois, sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il a fait une alliance éternelle pour que tu puisses aussi participer à son œuvre, pour que tu puisses aussi avoir cette espérance d'être un jour auprès de lui. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu a aimé Jacob tel qu'il était. Jacob, ça veut dire trompeur, supplanteur. Donc Jacob était celui qui trompait, était celui qui supplantait l'autre, était celui qui était image de l'homme du péché. Et c'est celui-là que Dieu a aimé. Et c'est pour celui-là que Dieu a permis que Jésus vienne sur la terre. Parce qu'il est écrit que Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais il voit notre cœur. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi ? Parce que Ésaü, c'est celui qui a négligé la bénédiction. C'est celui qui a foulé aux pieds le droit d'aînesse. C'est celui qui n'a pas respecté ce qui lui était destiné. Et de la même manière, si nous réagissons mal à cette parole, à cette bonne nouvelle de savoir que le Seigneur Jésus nous aime et qu'il nous veut auprès de lui, qu'il est mort pour nous sur la croix, pour que nous soyons auprès de lui, alors nous sommes dans le même cas. Nous sommes dans le cas d'Ésaü. Et un jour, nous devrons rendre des comptes face à lui. Et cette parole, de quel côté nous sommes ? Est-ce que nous sommes du côté de Jacob ou est-ce que nous sommes du côté d'Ésaü ? Je ferme la parenthèse. Revenons à Joseph. Donc on voit dans cette histoire qu'Israël va fabriquer une tunique de plusieurs couleurs, ou dans une autre version, il est écrit une tunique de luxe. Nous avons là un homme de Dieu qui va se mettre à la couture. Mais imaginons la scène un petit peu. Jacob, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Fais une robe pour Joseph. Non, c'est pas possible. Ça va mal se passer avec ses frères. Fais une robe pour Joseph. C'est Israël qui fait la tunique. Donc l'homme spirituel obéit à Dieu. L'homme spirituel fait toujours la volonté de Dieu. Et cette tunique, il fallait, dans le dessein de Dieu, qu'elle soit faite à Joseph. Et cette tunique, elle nous parle de plusieurs manières. La première des manières qui m'a sauté aux yeux, c'est que Dieu ait jugé utile de dire qu'elle avait plusieurs couleurs. Je ne sais pas si ça vous parle, dans la Genèse, un endroit où il est question de plusieurs couleurs, l'arc-en-ciel. Et quand il y a un arc-en-ciel, il s'agit d'une alliance de paix entre Dieu et les hommes. Donc les multiples couleurs de la tunique nous parlent d'une alliance. Une alliance que Dieu fait avec Joseph, parce que Joseph a déjà un cœur bien disposé. Et il plaît à Dieu. Et Dieu fait une alliance de paix avec Joseph. Il y a un autre passage dans la Bible où il est question d'un manteau qui est important, c'est celui d'Élie. Et Élisée va vouloir, il va récupérer le manteau d'Élie. Il va demander une double onction, il va demander de pouvoir aussi faire le même travail que son prédécesseur, tout simplement, et le poursuivre le travail. Et il va récupérer le manteau d'Élie. Le manteau symbolise l'Esprit de Dieu. Le manteau symbolise le Saint-Esprit et tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que je suis revêtu du manteau du Saint-Esprit ? Parce que sans ce manteau-là, de la même manière qu'Élisée n'a rien pu faire, nous, sans le Saint-Esprit dans notre cœur, nous ne pourrons rien faire. C'est important. Et enfin, cette tunique me rappelle aussi la robe qu'on donne au fils prodigue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la parabole, à la fin, il revient à son père et le père lui dit « Mettez-lui la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. » Et oui, il est à nouveau encore la question de cette tunique qui est donnée pour celui qui est réconcilié avec Dieu. Le fils prodigue en est un exemple. Et ce fils prodigue qui est revenu à son père l'aimait parce qu'il l'attendait. Son père l'attendait. Il attendait qu'il revienne. Et alors qu'il était encore au loin, le père le voyait déjà arriver. Dieu nous attend, Dieu nous aime. Et l'alliance qui est faite avec nous, c'est parce qu'il nous aime. Rappelez-vous ce texte, parce que Dieu nous aime, il a changé la malédiction en bénédiction. Il y a une alliance que Dieu a faite avec nous. Il nous aime. Par rapport à toutes ces choses, il y a aussi cet aspect où, quelque part, l'histoire de Joseph préfigure même la parabole. La conséquence de la fabrication de cette tunique est que ça marque un point de départ sur quelque chose de long pour Joseph, une épreuve qui va durer juste 13 ans. Ça fait un paquet de temps quand même, 13 ans, une épreuve. Sachant que dans ces épreuves-là, il y a des épreuves dans des épreuves. Ça ne va pas être simple ce qui va traverser Joseph. Et pourtant, Dieu lui donne cette garantie, cette alliance. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que les songes que Joseph a, ils ont lieu après avoir reçu la tunique, pas avant. Ça, c'est pour l'affaire que le manteau représente le Saint-Esprit. Et suite à avoir cette tunique-là, qu'est-ce qui se passe ? Les frères sont jaloux et ils vont vendre Joseph. Dans le fils prodigue, on a un peu le même comportement d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais quand il revient et qu'il a la plus belle robe, il y en a un qui n'est pas content dans l'affaire, c'est le grand frère. Quand Dieu fait alliance avec nous, et quand nous faisons alliance avec Dieu, il y en a toujours qui ne seront pas contents. Il y en a toujours à qui notre alliance, l'alliance que moi je fais avec Dieu, il y en a à qui ça ne plaît pas. Et le diable va commencer tout un travail de sape qui va le tromper, parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Alors regardons. Joseph est celui avec qui Dieu a fait cette alliance de paix. Joseph est celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, le Pharaon même l'atteste, lui qui est profane. Je vous donne la référence pour ceux qui prennent des notes, Genèse 41, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Donc Joseph avait bien quelque chose que les autres n'avaient pas, et en plus, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça se remarquait. Est-ce que je suis revêtu du Saint-Esprit au point que ceux qui ne me connaissent pas le remarquent ? Mon entourage déjà, mais même dans le monde du travail, peut-être que... J'étais avec Monsieur de Dieu tout à l'heure et il m'expliquait que dans son travail, il était aussi dans des situations où, même sans parler, les gens sentaient quelque chose de différent. Et quand on est revêtu du Saint-Esprit, ça se passe. Est-ce que je suis perçu de la même manière que Joseph l'était, comme quelqu'un d'agréable à Dieu, tout simplement ? Joseph était tout cela. Dieu a fait alliance avec Joseph. Et quand Dieu nous aime, il veut faire de nous le plus beau des vases. Et pour cela, ça impose qu'il puisse travailler aussi en nous. Et Dieu va perfectionner Joseph. Le mal qui va lui tomber dessus, entre guillemets, parce que le diable essaye de le détruire, va se retourner contre lui. Mais ce ne sera pas inutile, parce que c'est là justement ce que Dieu permet pour le perfectionnement de Joseph. La première chose que Joseph va vivre, c'est qu'il va perdre son identité. La première chose que lui font ses frères, c'est qu'il lui arrache la tunique, qu'il la déchire. Et le diable, bien souvent, alors que nous faisons une belle expérience avec Dieu, arrive juste derrière, et nous fait traverser quelque chose de compliqué, et va nous faire rentrer dans le doute, ou alors va essayer de nous accuser. Non, tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu. Tu as vu ce que tu as fait ? Tu as vu ce que tu regardes le soir, quand tu es tout seul ? Oui, le chrétien peut tomber, mais il est appelé à se relever en se demandant pardon à chaque fois au Seigneur. Et celui qui le fait, il reste dans cet état de grâce. L'apôtre Paul écrit aux Romains, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée ? L'alliance, elle est éternelle. Jésus est mort une fois pour toutes sur la croix du calvaire pour que nous puissions être sauvés. Il nous aimait alors que nous étions encore des pécheurs. Maintenant que nous lui appartenons, ne doutons pas que Dieu nous aime encore. » Parce que c'est ce que le diable aimerait nous faire croire. Et c'est ce qu'il a essayé de faire croire à Joseph en faisant en sorte que sa tunique lui soit enlevée. Joseph, lui, de son côté, ne va jamais douter de l'amour de Dieu à son égard. Et c'est ce qui va l'aider à supporter l'épreuve. C'est ce qui va l'aider à vivre ces 13 ans difficiles, quelles que soient les situations. Joseph va dans un premier temps apprendre à devoir pardonner. Certes, la Bible nous rapporte que le pardon a lieu à un moment donné avec ses frères. Mais qui sait si Joseph n'avait pas déjà pardonné dans son cœur à la personne bien avant ? Ça, on ne le sait pas. Mais vu l'état du cœur de Joseph, peut-être qu'il en a souffert un certain temps, j'en sais rien combien de temps il en a souffert. Mais dans son cœur, Joseph était déjà prêt à revoir ses frères. Ensuite, Joseph, il va perdre la liberté. Il va être vendu comme esclave. Et il va être non seulement esclave, mais il va être esclave à l'étranger. C'est des esclaves encore moins chers. Joseph va descendre au plus bas, alors qu'il était haut. La tunique symbolisait aussi le droit d'aînesse. Celui qui était honoré, de la place d'honneur qu'il avait, il se retrouve tout en bas de l'échelle. Joseph va apprendre l'humilité. Ensuite, Joseph va voir sa fidélité au Seigneur remise en cause plusieurs fois. Il va être testé. Mais Joseph a toujours ce cœur bien disposé. Il n'a jamais baissé les bras. Il continue de faire honneur à Dieu par ses paroles. Regardez Genèse 39, verset 9. Ce que dit Joseph face à Madame Potiphar, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi gros mal et pécherais-je contre Dieu ? Nul doute que Madame Potiphar voulait être discrète, hein, parce qu'elle savait très bien elle-même que si ça s'était su, elle n'aurait pas pu profiter de Joseph longtemps, si jamais il était tombé. Donc c'était dans le secret, cette affaire-là. Joseph aurait très bien pu profiter du secret et tomber et accepter les avances de Madame Potiphar. Mais Joseph savait que que même dans le secret, Dieu voyait dans son cœur comme dans un livre ouvert. Et il nous est important pour nous de réaliser ces choses. Dieu lit dans notre cœur, comme dans un livre ouvert. Et même quand nous sommes seuls, protégés, à l'abri des regards, comment est-ce que je vois les choses qui m'arrivent quand je suis testé? Est-ce que j'ai cette crainte de Dieu qui m'amène à dire « Non, je ne veux pas pécher contre Dieu » Ou est-ce que, à l'abri des regards, je fais comme j'ai envie? Et je viens à l'église et je me comporte bien, nickel, et chez moi, je fais ce que je veux. Il est important de réaliser que Dieu lit dans notre cœur. Notre attitude extérieure vis-à-vis des autres, elle importe peu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu lit dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y voit dans notre cœur? Dieu a vu dans Joseph la crainte de Dieu. Et si vous regardez dans le chapitre 39, regardez le verset 21, on le voit, c'est même écrit à plusieurs reprises. Là, il y a le deuxième exemple, je crois, dans le verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Si c'est écrit ça, ça montre quand même que vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de tout ce qui lui était arrivé, Joseph avait quand même bien réagi, parce que il n'aurait pas été écrit ça. L'Éternel fut avec Joseph. Alors peut-être que Joseph ne l'a pas senti pendant ses 13 ans, mais Joseph savait que Dieu était avec lui. Joseph va être éprouvé par Madame Potiphar et d'une manière injuste va se retrouver ensuite en prison. Et Joseph, alors qu'il se retrouve à nouveau en prison pour un mal qu'il n'a pas commis, a toujours ce cœur bien disposé. C'est incroyable. Joseph n'était pas en train de râler, de murmurer sur son sort, parce qu'il se disait « mais j'ai rien à faire là, c'est pas juste ». Non, Joseph avait ce cœur bien disposé, au point que là où il était, il avait le regard soucieux de ceux qui l'entouraient. Quand on est soucieux des autres, ça démontre quand même un certain niveau. Joseph, il aurait pu se dire « mais moi je suis en prison, si les autres autour de moi ils sont tristes, c'est leur affaire ». Moi, j'ai bien souffert aussi, j'ai eu ce qu'il fallait, donc qu'ils se débrouillent les autres. Mais ce n'est pas du tout ce que Joseph a vécu. Quand les chansons et le panetier sont venus, on peut peut-être regarder le texte, c'est quand il est en prison, au chapitre 40, à partir du verset 5. « Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. » Joseph était soucieux de tous ceux dont il avait la responsabilité. Et Joseph a perçu la tristesse de ces deux hommes. Il aurait pu se plaindre, Joseph, et pourtant non. Il a toujours ce regard bienveillant, il a toujours ce regard posé sur ceux qui l'entourent. Et Joseph va exprimer de la compassion vis-à-vis d'eux. Et ça va débloquer la situation. Cette compassion, ce dialogue que Joseph va entamer avec le panetier et les chansons, va les amener à dire ce qui leur est arrivé. Joseph, comme il aimait Dieu, a eu l'explication des songes, et ensuite le rétablissement va commencer. Mais Joseph, dans un premier temps, développe la compassion. Alors qu'il est au fond du trou, alors qu'il est dans la prison, alors que ça fait un moment qu'il est dans l'épreuve et que les épreuves s'enchaînent, mais je dirais même s'empilent les unes sur les autres, Joseph n'a jamais perdu la confiance en Dieu. Joseph a toujours cru que Dieu était au-dessus de tout. Je dirais que Joseph a développé simplement les fruits de l'esprit qui sont exprimés dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Vous pensez que Joseph a été patient pendant 13 ans ? Oui. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Joseph ne s'est-il pas exprimé d'une manière douce au panetier et à les chansons ? Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu. Et cette tunique, voilà ce qu'elle symbolisait. Il nous faut la chercher parce que quand on voit ce qui arrive à Joseph, moi je veux croire pour ma part que si je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu va pouvoir m'utiliser. Si je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu va pouvoir permettre que des situations soient débloquées, que non seulement pour moi, mais surtout pour ceux qui m'entourent, Joseph va pouvoir donner une explication juste et Joseph va pouvoir être le sauveur de toute l'Égypte et aussi, par entre guillemets, dégâts collatéraux, sa propre famille. Joseph va être une vraie bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Moi, ça me donne envie d'être rempli du Saint-Esprit quand je vois les conséquences. On voit que Joseph, pourtant, dans toute cette histoire, il n'a rien fait de particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Joseph n'a fait que subir. Tout au long de son épreuve, il n'a fait que subir. Joseph va prendre part, malgré lui, à un plan de sauvetage divin. Quelques exemples. Joseph était beau. Est-ce qu'il l'a cherché ? Il était beau, c'est comme ça. Et comme il était beau, il a été choisi par Potiphar. À côté des autres esclaves, Joseph avait une bonne stature. C'était un homme bien bâti, donc il devait être beau, musclé, etc. Et c'est pour cela que Potiphar l'a choisi. Ça tombait bien, Potiphar était dans la maison du roi. Joseph était beau. Et il a aussi attiré les regards de Madame Potiphar. Mais avant qu'il ait pu attirer ces regards-là, Joseph était monté en grade chez Potiphar parce qu'il était consciencieux, il était bon gestionnaire et il était droit. Joseph ne faisait qu'être lui-même. Il était normal, je dirais. Et Madame Potiphar l'a remarqué. Joseph était pur. Il n'a pas voulu se souiller avec Madame Potiphar. Est-ce que là encore, il pouvait faire autrement, ayant la crainte de Dieu en lui ? Non, il est resté pur et ça a provoqué qu'il aille en prison, dans la prison du roi, pas n'importe quelle prison. Joseph a toujours été soucieux des autres. Est-ce que c'était de sa faute ? Non, il développait là encore un fruit de l'esprit qui l'a amené à être en relation avec le panetier, les chansons, et ainsi débloquer toute la situation. Joseph connaissait la voix de Dieu, là oui, effectivement, connaître la voix de Dieu, ça nous implique personnellement. Samuel ne laissait tomber aucune parole à terre, et c'est à nous d'y travailler. Et Joseph a dû y travailler, pourtant la Bible ne nous dit pas que Dieu ait parlé souvent à Joseph pendant ses 13 ans. Mais le peu de fois où Dieu lui a parlé, où il a senti qu'il fallait faire quelque chose, il a demandé au Seigneur sa grâce pour recevoir l'interprétation des songes, et il les a obtenus. Joseph, sans même l'imaginer, a pris part à un plan de sauvetage incroyable. Joseph a accepté d'être formé par Dieu. Non seulement cette formation a permis à Dieu de tester Joseph, mais en plus, toutes ces épreuves qu'il a traversées lui seront utiles pour être gouverneur de l'Égypte. Dieu ne perd pas son temps avec nous. Et ça, j'aimerais qu'on le comprenne bien. Des fois, on se pose la question, on ne comprend pas les épreuves par lesquelles on passe. Et on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi tu permets ça et ça et ça ? Vous ne croyez pas que Joseph a pu se poser la question ? Alors qu'il était fidèle à Dieu, qu'il avait eu cette tunique, et intérieurement, je pense, il a dû ressentir l'approbation de Dieu sur sa vie, les épreuves s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent, et ça dure et ça dure. Joseph aurait largement pu se poser la question, mais non, il a accepté l'épreuve. Frères et sœurs, je crois qu'il faut que nous comprenions que Dieu ne joue pas avec nous. Et quand Dieu nous fait passer par une épreuve particulière, il y a toujours un but bien précis. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne ceux qui nous entourent, on prend part à quelque chose qui nous dépasse. Et quand Jacques dit qu'il faut regarder avec joie les épreuves, je crois qu'il nous faut changer de point de vue et essayer peut-être de se placer du point de vue de Dieu. On ne comprendra pas forcément nos épreuves, mais on peut au moins se dire que Dieu connaît toutes choses, que Dieu sait toutes choses, que Dieu a la maîtrise de tout. Est-ce que dans cette histoire de Joseph, on sent Dieu dépassé par les événements ? Non. Dieu n'a jamais été dans la réaction. Dieu avait toujours tout prévu. Tout s'est toujours déroulé comme il l'avait prévu. Et en ce qui, ça a été le cas en ce qui concerne Joseph. Et en ce qui nous concerne, il nous faut croire que c'est la même chose. Parce que Dieu dirige tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu se rit des circonstances. Dieu se rit de l'avenir. C'est ce que Isaac veut dire d'ailleurs. Il a ri. Dieu, il est au-dessus. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Et en ce qui concerne nos vies à chacun, Dieu fait ce qu'il veut. À nous d'apprendre peut-être à rentrer dans son plan. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi qui suis dans l'épreuve et qui doute de Dieu, Dieu me dit de ne pas m'inquiéter, parce que Dieu a fait une alliance avec nous et il nous aime. Et le mal que nous pouvons vivre, parce que le diable fait une œuvre qui le trompe, peut se changer en bien. Parce que le Seigneur nous aime, il peut changer le mal en bien. Qui est prêt encore ce soir peut-être à dire « Oui Seigneur, pardonne-moi pour mon attitude. » J'aimerais te dire ce soir encore que je voudrais renouveler l'alliance faite avec toi. Est-ce qu'on pourrait se recueillir quelques instants ? Quand nous prenons la scène le dimanche, c'est un moyen pour nous de dire à Dieu que nous voulons renouveler notre engagement dans l'alliance éternelle, que nous reconnaissons que Dieu nous aime, que nous reconnaissons que même si l'épreuve que nous traversons est là, nous voulons lui faire confiance. C'est là les clauses de l'alliance et nous nous engageons quand nous prenons la scène. Là, nous n'allons pas prendre la scène, mais on peut réagir à cette prédication en se disant dans notre cœur, oui Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi parce que j'ai douté de toi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas cherché à comprendre ce que tu voulais faire. Pardonne-moi parce que là où tu as voulu travailler dans mon cœur, je me suis rebellé. Qui voudrait tout à nouveau dire au Seigneur qu'il est prêt à lui faire confiance malgré les épreuves ? Dieu veut aussi nous perfectionner en vue de son œuvre. Qui ce soir encore est prêt à dire au Seigneur, oui, je suis prêt à accepter la formation qui vient de toi. Je suis prêt à accepter de me laisser façonner par toi. Oui Seigneur, je suis prêt à accepter les épreuves que tu me fais traverser. Enfin, Dieu veut nous faire rentrer dans une grande œuvre. Est-ce que il ne valait-il pas mieux que Joseph ignore toutes ces choses ? C'est encore une preuve de l'amour de Dieu. Il ne nous fait jamais traverser les épreuves pour rien. Ce soir, j'aimerais, pour celui ou celle qui s'est senti interpellé par ce message, qu'il puisse se lever à sa place. Et nous allons prier. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas fait confiance. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'étais toujours en train de maugréer, de me plaindre de ma situation. Tout cela parce que je ne comprenais pas. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai douté de ton amour pour moi. Tu es mort pour moi sur la croix. Et j'ai oublié que l'épreuve que tu me fais traverser, elle est pour mon bien. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent. Seigneur, pardonne-moi. Avant de prier, j'aimerais juste citer cette parole qui résume tout à fait ce que Joseph devait vivre. C'est Michée, dans Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ne nous inquiétons pas de la volonté de Dieu. Est-ce que oui ou non ce soir, je veux simplement marcher devant mon Dieu de tout mon cœur. Ça suffit. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. Je vais prier. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour les personnes qui se sont levées, surtout parce que ce sont des décisions de te faire confiance tout à nouveau. Seigneur, mon frère ou ma sœur qui s'est levée, je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce, Seigneur, pour que tu puisses le ou la bénir, Seigneur Jésus, dans cette décision de te faire confiance à nouveau, de ne plus douter de ton amour et de te faire cette confiance aveugle comme Joseph l'avait. Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, tous, à marcher dans tes voies sans nous plaindre, en regardant avec joie ces temps que tu prévois, qui ne sont pas faciles, mais aide-nous à reconsidérer ces choses et y voir le but que tu veux suivre, la fin de toutes choses. Seigneur, aide-nous et aide mes frères et sœurs qui se sont levés. Dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que je termine. Mais Joseph, quand il se retrouvait gouverneur d'Égypte et qu'il a entendu les rêves de Pharaon, etc., il n'a pu qu'être émerveillé de voir comment Dieu s'était servi de lui. Et ce que Joseph a vécu, cet émerveillement qu'il a vécu, nous sommes tous appelés à le vivre une fois au ciel. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce dans quoi nous prenons part quand nous laissons le Seigneur agir à travers nos épreuves. Certains se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont des gros problèmes de santé, et sans même s'en rendre compte, le témoignage qu'ils rendent permet à l'un ou à l'autre de connaître le Seigneur. Nous serons émerveillés quand on sera au ciel.